Bonjour à tous. Nous allons continuer ce matin, évidemment, dans Galates, puisque nous avons une prédication suivie de l'épître de Paul aux Galates. La semaine dernière, je pense que Juarez a dû évoquer Galates chapitre 2 jusqu'à l'altercation, si on peut dire ça, la confrontation entre Pierre et Paul. Et donc moi, je reprendrai là. Et nous allons spécifiquement aujourd'hui méditer Galates chapitre 2, la lettre de Paul aux Galates, du chapitre 2, verset 15 au verset 21. Donc Paul écrit aux Galates, et donc c'est le chapitre 2, verset 15 à 21. Pour ceux qui ont les Bibles version 1,90€ TTC, dernier prix catalogue de la Maison de la Bible, c'est page combien ? 763. 1,90€, j'ai vu sur catalogue. Ah oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Alors, donc, c'est donc la page 763. Tout le monde est au courant, d'accord. Nous allons voir dans le passage que nous allons étudier comment Paul passe un petit peu finalement de la défense, vous vous souvenez, de son ministère d'apôtre. Il parle dans le chapitre qui a précédé, les versets qui ont précédé, il parle beaucoup de son appel, de sa vocation qu'il défend. Et là, doucettement, on va aller vers l'essentiel de la lettre, l'évangile de la liberté, qu'il va défendre face à tout système qui détourne de Dieu, et notamment, en l'occurrence ici, la loi de Moïse, utilisée, la loi n'est pas mauvaise, mais à partir du moment où elle est utilisée comme instrument de justification devant Dieu, là, on passe à côté des choses. Donc c'est Paul va, dans ce passage-là, aller vers la défense de l'évangile de la liberté. Alors nous allons lire la parole de Dieu, la parole inspirée, de notre Dieu, à partir de, pour bien reprendre, à partir du chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 21. Lecture de la parole de Dieu. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais, quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Alors comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs ? Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si en cherchant déclarer être juste dans l'union avec Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que Christ est complice du péché ? Ah non, loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant, dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, Ta parole est vie, ta parole est notre vie. Nous avons lu une partie de ce psaume 119. Ta parole est notre chemin, tu es la lumière sur notre sentier. Nous te prions pour renouveler notre cœur, pour que nous soyons à l'écoute, modelés par ta parole. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, le passage qu'on vient de lire comme ça, on balance entre la loi, entre la foi, ça peut paraître un peu obscur, un peu difficile. Mais déjà, vous dire que, comme je le disais, de manière subtile, vous le voyez bien, à partir du verset 15, Paul va se servir de sa confrontation avec Pierre pour exposer la vérité de l'Évangile et l'inutilité, voire la menace que constitue le discours des judaïsants, les fameux tenants de ce que j'appelle l'Évangile plus, hein, vous savez, Évangile plus, pratique de la loi pour être trouvé juste devant Dieu. Ce « nous » que l'on voit à partir du verset 15 commence à introduire ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne connaît pas le résultat final de la confrontation avec Pierre, parce que le sujet n'est pas la confrontation avec Pierre, mais l'Évangile de la liberté. Enfin, pédagogue, donc le verset 15 va commencer par « nous » qui englobe Pierre et les Juifs, qui laisse supposer, et qui est vrai, que finalement, tout le monde est d'accord, les Galates aussi, c'est une vérité admise par tout le monde, que les choses sont bien terminées, mais qu'aussi les croyants juifs d'origine sont avec Paul dans ce qu'il dit. Le « nous » englobe tout le monde. Tout le monde est là, effectivement, maintenant on développe ce sur quoi nous sommes d'accord. Alors, un peu pour déblayer le texte, je vais vous dire l'idée centrale. Elle est au verset 16, l'idée centrale. Paul va exposer l'idée centrale qui guide tout le passage de cette méditation. Elle est simple, elle est toute simple. Seule la foi en Jésus-Christ justifie devant Dieu. Elle est la seule source de liberté pour l'homme. La loi, comme instrument de justification, ne peut pas produire cela. Notre salut repose uniquement et uniquement sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est l'idée principale de ce passage. Seule la foi en Jésus-Christ justifie devant Dieu. Seule source de liberté pour l'homme. Vous retenez ça, vous avez compris cette alternance. Et les versets 16 et 17, où il dit « Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste ce que je viens de vous dire, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ », vont fournir l'argument central à cette idée principale. Les judaïsants disent « La foi plus pratique de la loi, pratique de la loi cérémonielle et de la loi morale égale, on est juste devant Dieu. » Ça, c'est ce que disent les judaïsants. Paul dit « La loi comme instrument de justification est une voie sans issue qui va mener loin de Dieu. Et au contraire, elle nous met sous un jugement. » Là où les judaïsants disent « Évangile en Jésus-Christ plus la loi », Paul dit « Ça se repousse, c'est impossible. Du point de vue d'être déclaré juste devant Dieu, loi et évangile sont incompatibles. Ils sont incompatibles. » Alors, pourquoi, et il le dit, pourquoi la loi nous met sous le jugement de Dieu ? Pourquoi la loi de Moïse, en l'occurrence, ne peut pas être considérée comme un instrument visant à être juste devant Dieu ? Parce que c'est pas son but. Le verset 18 va répondre à cette question. La première des réponses qu'on peut dire au verset 18, « Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'abandonne, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. » Parce qu'aucun de nous, aucun de nous, et je pèse mes mots, aucun de nous, ne peut accomplir tout ce que la loi demande. Aucun d'entre nous ne peut le faire. À la rigueur, bon, allez, peut-être on va se soumettre à une certaine forme de loi rituelle, on pourrait... Peut-être la circoncision, on va dire le sabbat, allez. Bon, les sacrifices, ça risque d'être un peu limité. Mais qu'en est-il de la loi morale, des fameux 10 commandements ? Les 10 commandements, on peut les vivre de manière très visible. Hein, évidemment, il est marqué « tu ne tueras point ». Ah, évidemment, on peut éviter de tuer les gens, ça c'est malheureusement il y a des attentats, mais on peut nous éviter de tuer les gens, effectivement, dans les apparences, on va vivre la loi. Mais n'oubliez pas que le sens profond que le Seigneur donne à la loi morale va encore plus loin que ça. Le serment sur la montagne nous dit quoi ? Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal, devant le Seigneur. Celui qui dit « imbécile » passera devant le grand conseil. Et celui qui traite de fou, qui le traite de fou, est bon pour le feu de l'enfer. C'est-à-dire que la loi morale, par exemple, de « tu ne tueras point » va très 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 loin. Qui n'a pas été en colère contre son prochain ? Qui n'a pas, une fois ou l'autre, traité d'idiot ou d'imbécile une personne, un collègue, une amie ou quelqu'un, membre de sa famille ? Nous sommes injustifiables par la loi. L'exigence morale est telle que la loi fait de moi forcément un transgresseur. C'est ce que dit le verset 18. À partir du moment où je vais dire que la loi, je vais me servir de la loi pour me justifier devant Dieu, je suis injustifiable. Je n'y arriverai jamais. Par conséquent, elle me met tout naturellement sous le jugement de Dieu. Seul Jésus peut accomplir parfaitement la loi dans tout ce qu'elle demande et comporte. Et il le dit lui-même, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. » Lui seul l'accomplit pleinement. Et je crois que, et c'est ce que finalement il va être développé, bien plus l'incapacité naturelle à plaire à Dieu m'amène et doit m'amener. Peut-être pas courant de le dire comme ça, mais je le dis, m'amener quelque part à désespérer de moi-même. À désespérer de moi-même et de ma capacité à paraître devant Dieu. Et donc forcément, à plier les genoux devant Dieu, à regarder vers celui qui dit qu'il a tout accompli et qui a été condamné à ma place pour mon incapacité. C'est, je crois, un des rôles de la loi vers lesquels Paul commence à pointer au verset 19, que l'on voit bien, car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec le Christ. Forcément, cette incapacité d'accomplir la loi tous les jours, à chaque instant de ma vie, à chaque seconde, va m'amener à trouver secours vers le Christ. C'est un des rôles de la loi, finalement. Ce n'est pas d'être un instrument de justice devant Dieu, c'est de me montrer le chemin vers Christ. C'est un chemin, effectivement, difficile, parfois de plein de désillusions sur soi, mais un chemin nécessaire pour se laisser remplir par le Seigneur. Alors, voyez bien, on ne peut pas associer la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ à l'accomplissement de la loi pour la justification. Il y a une opposition, c'est impossible. Un condamne, l'autre gracie. On ne peut pas mélanger les deux. Alors, pourquoi la foi seule en Jésus-Christ justifie devant Dieu ? Le verset 19 est très clair à ce sujet. Quand on le lit, quand on le regarde, car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. En Christ, en fait, j'ai changé de statut juridique. Il dit, je suis crucifié avec le Christ. C'est-à-dire que, fondamentalement, le moi qui ne pouvait absolument pas être trouvé juste devant Dieu est mort avec Jésus-Christ. Il est mort avec Jésus-Christ. Il n'existe plus. Maintenant, je suis vu par le Père au travers du Fils. Je suis mort à ce que j'étais. Je suis vu par le Père au travers du Christ. Et le verset 20 poursuit en disant finalement que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une véritable nouvelle identité qui m'est donnée. Christ vit en moi. Et le regard de Dieu sur moi est un regard d'amour. Me mettre sous la loi, finalement, c'est donc complètement un non-sens. C'est rejeter la grâce de Dieu, c'est rejeter le sacrifice de Jésus. Alors, on peut se dire, mais alors, la loi, à quoi sert-elle ? Que fait-elle ? Et évidemment, ce n'est pas parce que je suis en Christ que j'ai le droit de transgresser la loi, que je peux voler à tout va, flinguer à tout va, non. Non. La différence, elle est profonde. L'esprit qui m'anime vis-à-vis de la loi est complètement nouveau. ce n'est plus un instrument pour me justifier devant Dieu, pour me faire valoir devant lui, pour lui dire « Attends, moi j'ai fait ça, tu me dois ». C'est une loi maintenant qui s'inscrit dans un rapport d'amour et de reconnaissance. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier. Un amour hors de prix. En tant que co-héritier, je vais maintenant chercher à plaire à celui qui m'aime, comme un enfant avec ses parents, en voulant faire sa volonté pour moi. Et sa volonté pour moi, c'est de vivre selon la loi. Vous comprenez bien, le ressort n'est plus le même. Là où je me servais de la loi pour montrer ma valeur aux yeux de Dieu, « Ah, il est bien, il est sympa, il fait des super trucs et machin et tout. » Je pratique cette même loi par amour et reconnaissance envers Jésus-Christ. On ne fait plus les choses pour les mêmes motifs. Et à chaque fois que j'accomplirai quelque chose en cherchant à me faire valoir, Hartung, si je fais par reconnaissance et amour que le Seigneur a manifesté pour moi, merci Seigneur. Alors oui, il va m'arriver, et il m'arrive, de chuter sur ce chemin, mais je sais que je peux à tout instant m'adresser au Père par Jésus-Christ pour demander pardon. C'est le sens aussi qu'on donne dans notre culte à la lecture de la loi et à la confession des péchés et à l'annonce du pardon. C'est que oui, dans mon parcours de chrétien, des fois je rate des virages. Oui, il m'arrive des pensées que peuvent réprouver le Seigneur, mais je sais que je suis enfant d'un Père qui m'a aimé en Jésus-Christ et que je peux revenir vers lui en demandant pardon. C'est ce sens-là aussi que nous avons quand nous faisons dans notre culte la loi, la confession des péchés et l'annonce du pardon. Alors en conclusion de ce court passage, trésor de la foi, je dirais, et oppression. Le verset 21 affirme avec force les trésors de la foi. C'est ce qui en fait son contenu unique. Il le dit au verset 21, « Ainsi je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Grâce de Dieu et mort du Christ à ma place pour me donner la vie. » Ça, ce sont les trésors de la foi chrétienne. Qu'est-ce que, dans ma vie, me rend oublieux de tout cela? Chaque fois, et je le redis, que je pratique la loi ou les bonnes œuvres, dans l'Église ou hors de l'Église, en ayant en tête de montrer que finalement je suis un bon gars, pensant que franchement, la manière dont je le fais, les autres d'abord vont un peu m'encenser, et puis le Seigneur va jeter un regard favorable, va dire « Oui, c'est bien, tu as bien travaillé aujourd'hui. Parfait. Bonne journée. Un point. » Qu'est-ce qui, dans ma vie, me rend oublieux de tout cela? C'est vouloir, au travers d'un certain légalisme, définir par moi-même ce qui est bon ou mauvais. Vous savez, une forme de légalisme, à l'exemple de la prière du pharisien dans l'Évangile de Matthieu, qui passe son temps à prier en énumérant tout ce qu'il fait dans le respect de la loi. Moi je suis, amen pour moi. Mais qui en fin de compte ne sera jamais justifié. Dans nos églises, nous avons, au nom de principes parfois humains, souvent de principes humains, refusé la parole aux femmes, obligé au foulard, le fameux foulard, à savoir que lorsqu'on reprend cette histoire de foulard, c'était juste une question contextuelle. Dans les lieux publics, quand une femme circulait sans foulard, c'était indécent. L'Église était un rassemblement public, donc la décence de l'époque voulait qu'il y ait un foulard sur la tête. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est « tu dois porter un foulard ?» Non, c'est « qu'est-ce qui est décent dans nos églises ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» C'est ça la vraie question. Au regard de l'Évangile, qu'est-ce qui est décent et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui, dans ma vie, rend oublieux de cela? C'est établir un système de pensée, d'action, tel qui nous rend aveugles à Dieu. À l'exemple des pharisiens dans l'évangile de Jean, qui refusaient de voir les miracles de Jésus. C'est incroyable, cet évangile de Jean. Jésus fait des miracles, les pharisiens répondent, « Ah, pas le jour de sabbat !» Jésus dit qu'il est fils de Dieu, tu blasphèmes. Mais à aucun moment, ils ne vont voir s'il y a cohérence entre les propos et les actes du Seigneur. À aucun moment, s'ils y allaient voir leur aveuglement aurait cessé, mais ils sont pris dans leur système de loi, dans ce qu'ils ont construit. Ils préfèrent rester dans l'aveuglement, et c'est ce que dit l'introduction de l'évangile de Jean, plutôt que dans la lumière de Dieu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça, c'est quand nos systèmes, aussi théologiques, nous font oublier la grâce de Dieu et la mort de Christ. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui va parler en langue. Un bon chrétien, c'est un bon culte, c'est une très bonne liturgie bien léchée selon la norme réformée. Ça, c'est aussi nos systèmes. Ainsi en est-il de nos systèmes humains qui visent à modeler nos pensées, nos cœurs, nos modes de vie loin de Dieu, nous laissant croire à une certaine autosuffisance, nous faisant oublier finalement la précarité de notre condition humaine et la nécessité de Dieu pour cette vie, pour que cette vie prenne du sens, pour que nous puissions avoir un but dans cette vie. Vous souvenez ce que dit le catéchisme de Heidelberg, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? On va poser cette question dans la rue, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Quelle réponse? Tous ces systèmes qui nous font oublier, toutes ces sociétés de consommation qui nous font oublier la précarité de notre existence, mais un jour ou l'autre, il y aura un rendez-vous avec Dieu, qu'on soit croyant ou non croyant. Ainsi aussi en est-il de notre tour de Babel moderne, qui est la technologie. Il y a de belles choses que nous faisons en technologie, franchement. En matière médicale, par exemple, de progrès scientifique, ces prothèses qui sont faites, mais qui redonnent une vie nouvelle aux personnes, c'est vraiment chouette. Mais hélas, nous construisons à travers cela une société pour nous rendre, nous cherchons à nous rendre invisibles, invincibles, immortels, l'égal de Dieu. C'est pour ça que je dis tour de Babel. Nos vies deviennent réductibles à un clavier d'ordinateur. J'envoie un message. Celui qui est en face doit me répondre instantanément. Je le réduis à un clavier d'ordinateur. Ou à la possession, par exemple, on a vu cette semaine, du dernier iPhone, oubliant qu'à un bout de la chaîne, nous sommes transformés en homo economicus, qui doit toujours plus consommer pour faire fonctionner le système, réduit à cela, alors qu'à l'autre bout, c'est des jeunes, des esclaves quasiment, qui extraient de la terre, dans des conditions vraiment très difficiles et mortelles, ces précieux composants, téléphones portables. Nous sommes façonnés, ficelés là-dedans, faut en sortir. L'évangile de la liberté m'appelle à un autre regard sur la création de Dieu et à son plan pour l'humanité. Face à tout ce qui est devant moi, en tant que croyant, je dois me poser la question, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela respecte sa création et particulièrement sa créature, l'homme, dans tout ce que je vois, dans tout ce qui est fait, dans tout ce qui est à côté? Cette question-là, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie sa création? Est-ce que ça glorifie? Est-ce que ça respecte sa créature? Chaque fois que dans ma vie je suis oublieux de la grâce de Dieu et du prix payé par la mort de Jésus-Christ, chaque fois que je doute, je dois m'interroger, je dois voir ce qui m'oppresse ou ce en quoi j'ai mis ma confiance. Il convient de réaliser à travers tout cela que la vraie liberté est en Jésus-Christ, ni en moi, ni dans les hommes, ni dans aucun système. La vraie liberté, elle est en Christ. Et c'est ce que défend Paul. Ne vous laissez pas asservir. Ne vous laissez pas asservir par un système légaliste. N'oubliez pas la grâce de Dieu et la mort de Jésus-Christ pour nous à la croix. Un prix bien plus précieux que rien dans cette humanité, rien ne pourra offrir. Martin, je vais laisser la parole à Martin Luther pour conclure. Il disait... Je dois écouter l'évangile qui m'enseigne non pas ce que je devrais faire, ça c'est le rôle de la loi, mais ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour moi, à savoir, il a souffert et il est mort pour me délivrer du péché et de la mort. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi, nous voulons nous prosterner devant toi et te dire que nous sommes parfois bien faibles et te prier de nous donner du discernement pour que nous puissions voir ce qui peut nous éloigner de ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Tout ce qui, dans nos vies, nous éloigne vraiment de toi. Seigneur, donne-nous ce discernement. Donne-nous de vivre la liberté de l'Évangile, la grâce de manifester ta présence dans cette société qui en a tant besoin, d'être vraiment encore, par ton Évangile de grâce, celle de la terre et lumière du monde. Dans le nom précieux de Jésus.